30 secondes avant départ. Vous n'oublierez pas bien sûr de diffuser du sourire.
La chronique de Gilles Labourouard. Le sport entre histoire et société.
Cette semaine, les chroniques de Gilles s'intéressent à un coureur mythique américain des années 1960, un athlète d'exception et de légende, Steve Préfontaine. Chaque année, à la Toussaint, on s'arrête pour déposer quelque chose de nous-mêmes sur un bout de rocher de Skyline Road, à Eugene, dans l'Oregon, aux États-Unis. À côté de ce rocher où Steve Préfontaine, icône de l'athlétisme américain, s'est tué accidentellement à 24 ans dans la nuit du 29 au 30 mai 1975, et déposé une plaque de marbre, gravée par des détenus de la prison d'État de l'Oregon, où le coureur américain s'y rendait parfois pour parler aux prisonniers de la course à pied et de cette liberté qu'elle donne à soi-même. Sur la plaque, on peut y lire « Pour ton dévouement et ta loyauté, pour tes principes et tes convictions, pour ton amour, la chaleur et ton amitié, pour ta famille et tes amis, tu nous manqueras tellement et nous ne t'oublierons jamais. » Ce soir-là, de 1975, c'est une fête qui réunit des athlètes américains beaux, jeunes et talentueux. Steve Préfontaine, qui attendait les Jeux Olympiques de Montréal 1976 avec impatience pour prendre sa revanche du 5000 mètres de Munich 1972, cette fameuse course qui divise encore le monde de l'athlétisme. Frank Shorter, vainqueur du marathon de Munich 1972, Kid Moore, quatrième du marathon de 1972. Bill Bowerman, leur entraîneur, qui ouvrira le premier magasin RBS qui deviendra Nike, la société avec son logo en forme de virgule. Steve Préfontaine finit par déposer Frank Shorter chez lui et redémarre pour entrer chez lui. Il n'y parviendra jamais. Il décède sur le coup. Il roulait certainement trop vite. Il avait sans doute bu et ne portait pas de ceinture de sécurité. Steve Préfontaine est mort comme il avait vécu. Il incarnera à jamais le romantisme de la piste, une certaine forme de pureté de la course à pied dans ce qu'elle a de quête d'absolu et de vérité des hommes. Il disait « Ne pas aller au fond de soi, c'est un peu renier son talent. Ne laisse pas la fatigue faire de toi un lâche. » Retour sur la finale du 5000 mètres des Jeux Olympiques de Munich 1972. Ce 5000 mètres constitue l'une des courses les plus marquantes des courses de fond des Jeux Olympiques. Après 9 minutes 30 secondes de course, Steve Préfontaine prend les rênes du peloton et place une violente accélération. Il reste devant. L'anglais Red Belfort passe aussi en tête, mais Préfontaine reste plusieurs tours sur le deuxième couloir, parcourant une distance supérieure. Il attaque et attaque encore. Il se suicide en mode vision. Il se brûle les ailes et explose en plein vol à quelques mètres de la ligne d'arrivée. Il finira quatrième. Et le Finlandais Lars Wirén l'emporte, produisant une longue accélération qui anéantit la résistance du Belge Emile Poutmans et de l'Éthiopien Merit Shifter. Lars Wirén, couleur filiforme, 1m80, 60 kg, une foulée courte, mais des jambes qui n'en finissent pas, améliore le record du monde de l'Australien Ron Clark en réalisant 27 minutes 38 secondes 4 centièmes. On sait aujourd'hui que Préfontaine avait usé de transfuseurs sanguins pour se préparer. Il aurait dû prendre sa revanche à Montréal 1976. Il aurait pu encore courir 6 à 8 longues années au plus haut niveau international. Mais sa légende était née. Comme James Dean, qui n'a tourné que 3 films, ce qui a nourri sa légende, The Préfontaine Way of Touring, Préfontaine, courant comme d'autres, faisait du rock'n'roll, un prodige déjà à 19 ans, trop vite, trop haut, trop fort. La vie de Steve Préfontaine fut portée plusieurs fois à l'écran, notamment dans Préfontaine, film américain réalisé par Steve James en 1997, et Without Limits, film américain réalisé par Robert Towne en 1998. En 2016, le cinéaste Pierre Mora, dans son documentaire Free to Run, aborde les débuts de Steve Préfontaine, son combat afin de libérer les coureurs des fédérations d'athlétisme. L'Amérique de Steve Préfontaine Ce sont les années 1960-1970, l'Oregon, la Californie, Eugene et son stade mythique de 20 000 places qui symbolisent la force de l'athlétisme US, même encore aujourd'hui. Eugene a accueilli en 2022 les championnats du monde d'athlétisme. Au premier rang de cette énergie, les universités américaines, hier traversées par des thèses psychanalytiques, marxistes ou structuralistes, aujourd'hui en partie dominées par les études postcoloniales, féministes et mouvements minoritaires, rendant compte et combattant les discriminations de toutes sortes. L'injonction à rester éveillé n'est pas nouvelle aux États-Unis. En 1960-1970, en pleine période hippie, l'appropriation culturelle faisait déjà référence à l'argot afro-africain, que l'on retrouve à la naissance du jazz, héritier de l'époque de l'esclavage où les Noirs devaient parler entre eux, en langage codé, pour ne pas être punis par leur maître. Une partie de ces références venant des évangiles. Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. Saint-Marc. Steve Roland Prefontaine est né le 25 janvier 1951 à Cosby, dans l'état de l'Oregon. Il s'entraîne avec Bill Bowerman, l'un des futurs fondateurs de la marque Nike à l'Université de l'Oregon entre 1970 et 1975. Dans le quartier général de Nike, à Portland, une seule statue trône à l'entrée. C'est celle de Steve Prefontaine. Les actuels dirigeants de Nike ont comme une dette envers ce coureur. Côté entraînement, Alberto Salazar, l'entraîneur de Nike Oregon Project, ancien marathonien, a été suspendu 4 ans pour l'antidopage américain, pour organisation incitation à une conduite dopante interdite. Sa principale athlète, la néerlandaise d'origine éthiopienne Sifan Hassan sur le 1500 mètres féminin en 3 minutes 51 secondes 95 centièmes, soit la sixième meilleure performance de tous les temps après l'avoir emportée sur le 10 000 mètres féminin des championnats du monde de Doha 2019. La Fédération américaine d'athlétisme a signé un accord de sponsoring avec Nike qui s'étend jusqu'en 2040. Ce contrat d'une durée supérieure à 25 ans, pour un montant évalué à 20 millions de dollars selon le New York Times, a provoqué une vraie irritation des autres marques de running, ulcérées de n'avoir pu concourir pour ce partenariat. En 2008, seul un athlète américain spécialiste du 800 mètres, Nike Simons, combattra cet accord. Au cours de sa carrière, Steve Prefontaine a détenu tous les records des États-Unis, du miles aux 10 000 mètres. À la fin de ses obsèques, un chronomètre s'est manifesté toutes les 64 secondes, représentant le temps effectué par le coureur lors de chaque tour de piste dans le cadre d'un 3 miles ou 4827 mètres. Le Britannique Roger Bannister, en 1954, fut le premier athlète à couvrir le miles, 1609 mètres, en moins de 4 minutes, 3 minutes 59 secondes 4 dixièmes. The 4 Minute Mile. Le jeune étudiant en médecine, qui fut quatrième aux Jeux Olympiques d'Helsinki 1952 sur 1500 mètres, s'accorda 2 heures de sommeil après son record avant de faire une garde de nuit au Mary's Hospital. Devenu neurologue, il est anobli en 1975. D'un acte militant intime, courir, c'est choisir d'être libre, Prefontaine en fait un acte militant collectif. Il s'inscrit dans la tradition de l'américaine Catherine Switzer, qui en avril 1967 est la première femme à participer à un marathon, le marathon de Boston, dont la création remonte à 1897. Dans les années 1960, courir hors des stades était considéré comme une activité de farfelu, d'excentrique et de contestataire. Courir un marathon était interdit aux femmes. La révolte de mai 1968 a accompagné la révolution du running, des courses en ville et des courses ultra.
C'était la chronique de Gilles Labouroir, à retrouver en podcast sur le site d'Esprit Occitanie.